Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Elpen. Alors, vous connaissez probablement pas parce que c'est assez récent et c'est pas pour ça que c'est pas au moins utile. On va en parler. On a dans notre studio Stéphane Lasconategui qui la représente. Bonjour Stéphane, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Philippe, ça va. Et au nom de l'association Elpen, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour pouvoir faire un petit peu la lumière sur l'association.
Tout à fait, voilà. Alors, donc le sujet, c'est une association qui lutte contre le harcèlement moral entre personnels de l'éducation nationale. Hein, on va parler de ça. On parle souvent de celui qui concerne les élèves, mais on va parler un peu du monstre sacré de l'éducation nationale, qui est quand même un organisme un peu lourd, un peu compliqué. Mais on va d'abord écouter auparavant le flash info national et international concocté par Marion Nigoul. On se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. À tout de suite. Et c'est parti, nous voilà de retour avec Stéphane. Donc avant de parler du sujet de l'émission à proprement dit, je pense que les gens vont être un peu surpris de découvrir un univers qu'ils n'imaginaient pas. Hein, voilà. On ne se rend pas toujours compte comment fonctionnent les choses vu de l'extérieur. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, Stéphane. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait avant d'arriver à ce micro?
Alors, moi, je suis enseignant. Je suis enseignant en lycée technique dans des sections de STI 2D. Je suis passé par différentes fonctions au niveau de l'éducation nationale dans le temps. Hein. J'ai commencé en région parisienne à enseigner pareil dans un lycée technique sur les sections de seconde, de première terminale, de BTS. Et puis, je suis redescendu dans le sud, donc au Pays Basque, pour continuer cet enseignement-là. Et puis, je suis parti aussi sur des fonctions de direction pendant plus de 3 ans. Et ensuite, j'ai été enseignant référent MDPH et je suis revenu à mes premières amours, comme on dit, donc à l'enseignement, en lycée technique, sur Anglette.
Vous enseignez quelle discipline ?
Donc moi, je vais enseigner ce qu'on appelle sont les sciences industrielles. D'accord, ce qu'on avait avant dans les bacs technologiques, c'est-à-dire l'électronique, l'informatique, oui, la mécanique, si on reprend des mots de l'époque.
D'accord, c'est ça. Alors, merci. Donc, le sujet, c'est quand même le... Alors, Elpen, en fait, c'est pas vraiment un acronyme, mais ça veut dire Help Éducation Nationale, hein,
Tout à fait.
Voilà, je précise aux gens quel est le sens du nom, parce que c'est toujours intéressant. Ou alors, donc, on va déjà présenter l'Éducation Nationale pour savoir de quoi on parle, parce que c'est quelque chose d'énorme. C'est probablement le ministère le plus lourd de l'État. Ça représente à peu près 1,2 million de personnes. C'est-à-dire, en gros, hein, 860 000 et quelques enseignants, et le reste, c'est des personnels non enseignants. Alors, personnel administratif, des CPE, AESH, il y a aussi les agents d'entretien, les agents ceux qui font le ménage, ceux qui font la maintenance des locaux, des espaces verts, il y a aussi les employés de laboratoire qui préparent les manipulations, etc. Voilà, c'est énorme, à savoir que... Dans certains établissements, en plus, ils ne font pas partie de la même administration. Il y en a qui sont fonction d'État, fonction territoriale ou département. Oui. Voilà. Donc voilà, j'ai présenté un peu le contexte. Donc c'est quelque chose de conséquent. Alors Elpen, c'est quoi son histoire? C'est pas très vieux en fait tout ça. C'est arrivé il y avait un besoin de fédérer un petit peu les informations et les problématiques sont graves en fait.
Oui. Alors Elpen a un an d'existence là maintenant. Elle est née d'un constat, hein, la souffrance au travail dans l'éducation nationale, qui est souvent massive, silencieuse et maltraitée. Les alertes ne sont pas prises en charge et l'inaction institutionnelle transforme les situations individuelles en crise de service public. En un an, Elpen a reçu 2250 témoignages.
Voilà.
Donc de personnes qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas trouvé au sein de l'institution des réponses et donc se sont tournées vers Elpen, qui a été donc quand même mise en place par 3 personnes qui elles-mêmes ont vécu ça et qui ont eu un parcours dans lequel elles ne trouvaient pas de réponse institutionnelle.
Oui. Donc comment est-ce que vous avez fait d'ailleurs au début pour vous faire connaître auprès des personnels que les gens existent justement, ils disent ah oui il y a un truc qui existe, il y a Elpen, on peut se tourner vers eux, en parler à quelqu'un, au tout début ça n'a pas dû être évident de se faire connaître.
Alors non, c'est pas du tout évident. En plus, Helpen est une association qui a été créée sur Paris par trois collègues de Paris, dont le président Guillaume. Ils ont créé un blog. D'accord, ils ont eu une petite lisibilité par des émissions sur Internet. Mmh. Et nous, ici, dans le Sud, j'ai envie de dire, comme on cherchait des réponses aussi avec une collègue, on a essayé de mettre des choses en place. Et en faisant des recherches sur Internet, nous sommes tombés sur le blog de Helpen. Et on a vu que, ben, oui, effectivement, ils avaient mis en place ce qu'on cherchait, nous, à mettre un petit peu en place dans le Sud-Ouest, à développer. Et on les a contactés, on a adhéré et on est monté faire des réunions sur Paris. Mmh. Alors évidemment, peu de personnel connaissent encore Helpen. Hein. On essaie de promouvoir l'association.
Ben on est là pour ça.
Et c'est très très gentil, Jean-Philippe, merci beaucoup. Et donc c'est à travers le blog, à travers des émissions comme celle-ci, à travers une lettre d'information qu'on distribue, qu'on envoie par mail, qu'on essaie de faire connaître l'association.
Mmh, ben oui. Alors, on parle donc de harcèlement entre personnel. Alors déjà, c'est intéressant un petit peu d'essayer d'imaginer, de comprendre. Quand on parle de harcèlement en dehors du harcèlement scolaire, c'est souvent des camarades de classe, camarades étant un mot qui ne soit pas tout à fait appliqué, mais on pense toujours à un problème hiérarchique, hein, c'est-à-dire celui qui est au-dessus d'un autre, hiérarchiquement parlant, qui va le harceler parce qu'il a le pouvoir, hein, voilà, c'est la loi du plus fort, hein, voilà, ça marche partout ça. Mais ce n'est pas forcément ça en fait, le problème c'est aussi entre collègues, ou même l'inverse d'ailleurs, ça peut être un agent qui va harceler un supérieur hiérarchique.
Oui, tout à fait. L'objectif de Helpen, ce n'est pas juste de traiter du harcèlement des profs, quoi, entre guillemets, hein, c'est vraiment le harcèlement, comme vous avez dit, entre les personnels. Il peut y avoir un lien hiérarchique ou pas, et donc l'idée c'est vraiment de tout traiter et d'essayer d'apporter des solutions autres que ce que des fois l'institution peut amener, c'est-à-dire l'arrêt de travail. C'est que souvent en fait on va vous mettre un arrêt de travail pour dire ben voilà, on a traité le cas, mais ensuite vous pouvez être amené à retourner dans votre même lieu, et auquel cas la situation n'est pas traitée et elle perdure, voire s'amplifie parce que vous revenez au même endroit.
Ouais. Alors il faut dire aussi de quoi on parle, mais voilà, donc l'issue la moins favorable, en fait, c'est le suicide, en fait, voilà.
Tout à fait, tout à fait. Il y a eu pas mal de cas. Hein. Les dernières en date, c'est la vague de suicide un petit peu qu'il y a eu en Normandie, qui avait été signifiée justement par des syndicats. Mais bon, il n'y a pas eu d'écoute peut-être suffisamment attentive. On voit aussi que chez les élèves aussi, hélas, on arrive quand même à ça, alors qu'a été mis en place depuis quelques années le projet phare, hein, qui est censé justement lutter contre le harcèlement. Il y a même la journée du 6 novembre qui est organisée dans ce cadre-là. Et malgré tout, il y a eu cette jeune fille là, 13 janvier, qui s'est donné la mort en se mettant sur les rails d'un train. Bon, c'est quand même dramatique d'en arriver là. Et chez les adultes aussi, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, c'est quand même dommage que la finalité soit celle-ci, plutôt que de prendre à bras le corps et d'essayer de trouver de vraies solutions.
Oui. Ce qui est intéressant, en tout cas, on parle de suicide, bon, bien sûr, c'est la chose la pire qui arrive, mais ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que c'est pas un petit problème. Ça veut dire que le harcèlement, on peut dire en fait, c'est le cumul. C'est sûr, une petite vexation ou une petite remarque, j'en sais rien, on détaillera un petit peu les mécanismes, c'est rien pris isolément. Mais à la fin, quand même, il y a des gens qui décident de mettre fin à leur vie. C'est pour dire le niveau de détresse, de souffrance dans lequel ils peuvent se trouver. Voilà, c'est vraiment la preuve qu'il y a un problème qui est pas anecdotique.
Tout à fait. Quand la réponse est celle-ci, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle a exploré, elle, de son côté, tout ce qu'elle a pu, et que souvent, elle n'a pas eu de réponse, justement, pour l'accompagner ou la sortir positivement de la situation, et auquel cas, elle en arrive à ce geste-là. Et donc, bon, c'est quand même dramatique. Donc, Helpen veut essayer d'apporter quand même des solutions. Elle ne veut pas être là pour donner des leçons. Elle veut justement essayer d'apporter une réponse qui, jusqu'alors, n'a pas été faite. Oui. Elle propose des solutions et l'association, c'est peut-être l'individuel pour le collectif, que chaque agent accompagné éclaire le système. Une commission d'enquête parlementaire Hein, mm-hmm. Il y a une pétition nationale qui la demande.
Oui, oui, ça
et puis, sur notre intranet, les premiers outils pour recueillir des témoignages complets, sécurisés et exploitables. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de chiffres réels, justement, là-dessus. Alors, évidemment, depuis peu, hein, il y a eu la cellule institutionnelle qui a été mise en place, Stop Discrit. Mais là aussi, est-ce que tout le monde va oser se retourner vers l'institution? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Parce que la difficulté pour les gens, bien souvent, quand on est dans cette posture-là, c'est d'aller le signifier, parce que c'est pas évident.
Oui,
on a peur des retours, comment on va être reçu, qu'est-ce qu'on va nous dire, parce que souvent, il y a une minimisation des faits. Comme on le voit souvent dans les cas, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il y a une minimisation des faits qui fait que la personne, elle dit, ok, je me suis tourné vers ces personnes-là qui étaient censées me défendre, et puis finalement, rien. Donc, voilà.
Ça fait penser un petit peu à la manière dont ce que peuvent vivre certaines victimes, souvent des femmes, de viol, hein.
Exactement.
C'est-à-dire, comment je vais être reçu, je suis remballé en disant oui, bon, voilà, et puis voilà. Et
tout à
donc,
fait.
Voilà. Donc, on a à la fois peur de ne pas être écouté, on a peur aussi d'être sanctionné, hein, parce que voilà, ça fait partie dans l'administration, c'est une grosse, grosse, grosse machine, on en a parlé. On va déjà faire une première petite pause et on va continuer à discuter de tout ça, on se retrouve après cette pause. Alors, on est de retour avec Stéphane, on parle donc Helpen, les actions d'Helpen. Donc alors, Helpen fait quoi? Elle recense les déclarations de problèmes, elle fait des chiffres, mais elle fait aussi l'intermédiaire avec l'administration. C'est quoi son rôle en fait? Comment ça fonctionne?
Alors, pour l'instant, voilà, comme c'est naissant, hein, pour l'instant, elle fait elle reçoit, voilà, les gens qui n'ont effectivement pas trouvé d'autres réponses. Elle accueille déjà leurs paroles parce que c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui accueillent leurs paroles sont pour l'instant sur Paris, puisqu'ils ont reçu une formation particulière. Parce qu'il est évident que quand vous avez quelqu'un qui est dans la souffrance comme ça, il y a des mots qui sont durs, il y a des situations qui sont difficiles, et donc il faut réussir à prendre suffisamment de distance pour ne pas justement impacter sa vie personnelle, parce que la situation est difficile. Moi, quand je suis monté pour la première réunion à Paris, donc il y avait des gens qui étaient là, et cette réunion nous permettait justement de mettre en place le premier questionnaire qui avait été proposé, justement, de le remplir pour voir un petit peu, le retravailler en quelque sorte par rapport aux expériences de chacune et de chacun, pour voir si si les questions étaient bien posées, si les propositions de réponse étaient bonnes et tout ça. Et donc, ça a été l'occasion quand même d'échanger avec des personnes, et je ne vous cache pas qu'il y avait quand même des situations assez lourdes, et qu'il y a des fois, ça peut nous toucher, quoi, parce que voir et entendre quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est pas facile. Moi, j'ai une personne dans mon entourage qui vit quand même un harcèlement comme ça, et c'est pas évident, parce que des fois, on se sent démuni. Comme un parent, quand son enfant revient et qui dit qu'il est harcelé. Helpen, pour l'instant, n'est pas là pour faire justement l'intermédiaire avec l'institution. Peut-être qu'un jour, suivant la reconnaissance qu'elle aura, ça sera peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, c'est juste recenser, essayer de provoquer cette enquête parlementaire et de proposer un outil efficace pour un recensement complet.
Alors, avant que Helpen existe, j'imagine que l'interlocuteur pour les gens, ça pouvait être par exemple les syndicats, j'imagine.
Tout à fait. Il y avait les syndicats, certains syndicats ont peut-être apporté des réponses, peut-être pas. Toujours est-il, c'est que les gens, certainement, les agents ou tous les personnels n'ont peut-être pas eu une oreille attentive en face et que peut-être ils se sont rabattus sur autre chose et ça a provoqué la création de cette institution. Ce qui est important, c'est complémentaire, puis il faut que Helpen travaille avec les syndicats, les syndicats avec Helpen, et moi-même je suis syndiqué au SNCL on en parle en réunion, et c'est important effectivement que tout le monde travaille de concert.
Oui, c'est vrai. Après, voilà, je reparle encore du conseil national, c'est un milieu un peu particulier. Au niveau des syndicats, ils vont des fois être séparés par type de personnel, et des fois il y a peut-être des cloisons qui sont virtuelles ou réelles entre entre les différentes disciplines. On va pas forcément oser voilà, faire la passerelle entre voilà, les enseignants, les agents, etc. LPEN s'adresse à tout le monde. Il y a pas de, c'est pas réservé aux enseignants ou aux agents, c'est pour tous les personnels de l'éducation nationale.
Oui, tout à fait. Alors, des cas, des fois, qui m'ont été rapportés, qui peuvent être compliqués lorsque c'est traité avec un syndicat, c'est lorsque les deux personnes font partie du même syndicat et qu'il oui. y a effectivement un rapport hiérarchique entre les personnes.
Et voilà.
Là, souvent, enfin, ça peut être compliqué en termes de traitement. Et bon, il y a eu des cas comme ça qui n'ont pas été forcément évidents et où la réponse n'était pas forcément favorable à une des deux, quoi.
Oui, voilà, ouais. Voilà. Ouais. Bon, après, j'ai pas les chiffres en tête par rapport au privé, mais je sais pas s'il y a plus de harcèlement à l'éducation nationale que dans une grande multinationale. Bon, on a parlé hors antenne de France Télécom, ça a quand même été très médiatisé. Bon, on a vu ce que ça pouvait donner le management, hein.
Oui, ben ce management-là était directement issu de la privatisation de France Télécom et qui a été un management quand même assez rude parce qu'il fallait rentabiliser. Voilà, on est toujours un petit peu, si on prend justement une invitée qui avait été présente lors de la première conférence organisée par LPEN le 21 novembre, donc Marie Pézé, qui est quand même, qui a une renommée quand même sur la souffrance au travail, parle effectivement dans ses propos. Sur le management qui effectivement une des sources les plus importantes sur la maltraitance. Hein. On parle des évaluations individuelles permanentes et mises en concurrence, des objectifs irréalistes et indicateurs déconnectés du travail réel, un contrôle excessif, un reporting constant, perte d'autonomie, et puis précarisation des statuts, insécurité professionnelle. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on retrouve dans les propos de Marie Pézé sur la souffrance au travail.
Oui, et puis les manières de communiquer, de dire les choses aux gens, et voilà, donc... Alors voilà, les gens qui gèrent les ressources humaines, qu'ils le veuillent ou non, voilà, l'humain c'est une matière pas comme le bois ni le métal, hein,
tout à fait.
C'est plus compliqué et ça se gère d'une autre manière, voilà, c'est fragile.
C'est fragile. Ouais,
c'est fragile, on peut c'est dire fragile. Ça.
Ouais. Et c'est vrai que souvent, on a entendu, par exemple, ces derniers temps, hein, des ministres qui ont dit « Ah, ben on va faire des cours d'empathie aux primaires, des choses comme ça. »
Ah oui, oui, oui,
mais c'est vrai. Mais je pense que le problème est plus global, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un projet global, pas juste faire un patchwork comme ça, hein, de manière à ce qu'effectivement, les gens apprennent dans le temps de respecter l'autre. Hein. L'empathie, c'est de comprendre l'autre dans sa difficulté.
Se mettre à sa place.
Donc, effectivement, si on forme ça tout au long de l'évolution du jeune, ça peut donner des adultes effectivement plus attentifs et que peut-être de faire un traitement particulier pour le harcèlement des élèves, moins d'implication pour le harcèlement des adultes, bon, ça c'est un peu disparate et peut-être qu'il faudrait apporter une solution plus global et plus pérenne.
Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à trouver un projet, peut-être un vecteur, une direction commune à tous. Déjà, rien que la société est déjà un petit peu en souffrance par rapport à ça, hein, au sens large, hein, pas que l'éducation nationale, donc du coup, forcément. Et puis, c'est vrai que, voilà, les élèves, les jeunes, bon, les adultes, ils sont là, ils servent un petit peu de comment dire, d'exemple. Oui. Hein, on est censé, en tout cas, hein, voilà, même si on n'est pas parfait, bien entendu, mais il faut, voilà, c'est ça, on ne peut pas dire aux élèves, oh, c'est pas bien, et puis hein, d'autre côté, traiter mal un subalterne ou un collègue, il y a un problème.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut en passer par traiter quand même le problème chez les adultes en montrant qu'effectivement on prend ça à bras le corps et puis chez les enfants, automatiquement, chaque adulte sera amené à pouvoir le faire correctement. Il y a un adulte en souffrance dans son travail aura du mal peut-être à pouvoir avoir le recul suffisant pour pouvoir justement gérer une situation conflictuelle auprès des enfants.
Et oui, ça c'est sûr. Ça va pas l'aider à bien faire son travail en tout cas. Ça, c'est sûr.
C'est sûr aussi, oui.
Ça, c'est sûr. Eh bien, on va déjà faire notre deuxième pause. On va écouter encore un petit peu de musique et le flash info local ce coup-ci. On se retrouve après ça. D'accord. Et nous revoilà. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une petite idée d'un cas, un cas ou deux, vraiment ? Bon, bien sûr, on ne va pas dire les noms, ni forcément, ni les villes, etc. Mais le genre de cas auquel vous avez été confronté, les choses qui vous ont été signalées, que des gens vous ont signalées, c'est...
Oui, tout à fait. Alors, comme ça, ça peut permettre aussi de donner un petit peu les comportements hostiles mmh. qui sont mesurés et déboucher comme ça sur un cas concret. Le travail statistique qui a été fait justement par, mmh. Par Helpen hein, sur un échantillon observe que les comportements hostiles, comme les rumeurs, représentent 85%, les moqueries, 70%, mmh. le mépris, 85%, la surveillance déplacée, 71%, mmh. l'isolement, 84%, la sanction injustifiée, 57%, mmh. le refus de protéger, 78%, et puis je finirai avec l'absence d'enquête, 76%.
Mmh, voilà.
Et ici, la dernière, c'est quand même le retournement contre l'auteur du signalement, mmh. 82%.
Voilà,
donc en fait, tous ces comportements hostiles, ben, y a un certain nombre de gens qui en sont le sujet. Et effectivement, quand j'avais été à la première réunion à Paris, je pense à un cas, hein, c'est une personne qui avait effectivement le comportement de sa collègue, qui sans arrêt observait son travail, n'allait pas aller avoir toujours des avis négatifs mmh. sur ce qu'elle faisait, l'avoir toujours sur le dos, mmh. Et ça constamment. Et donc effectivement, le coup du harcèlement, c'est quelque chose qui est répété à longueur mmh. de journée, à oui. longueur de semaine, etc. Ce qu'il faut voir aussi dans la topologie des victimes aussi, c'est que y a des harcèlements qui peuvent durer 40% subissent ces agissements pendant plus de 5 ans.
Oui.
Certains l'ont vécu depuis 20 ans, mmh. sans avoir d'issue.
Mmh.
Et cette collègue-là, qui a été victime de sa collègue, hein, puisque elle était directrice d'école, mais bon, il n'y a pas de lien hiérarchique,
mmh.
La seule issue qu'elle a trouvée, c'est démissionner de l'éducation nationale,
oui.
pour justement ne plus avoir affaire à cette collègue.
Mmh.
Le problème, quand même, ça veut dire que la personne, elle perd son travail, mmh. et il faut réussir à se reconstruire dans un autre oui. travail. Mais si je prends aussi, là c'est un cas voilà, d'une enseignante avec une enseignante, un autre cas dans lequel il y avait un rapport hiérarchique, hein, mmh. une chef d'établissement, parce que justement, il ne faut pas oublier qu'on parle de tous les personnels,
mmh.
et donc une chef d'établissement oui. eh bien, qui subissait les foudres de sa chef d'établissement, mmh. N'apportant pas de soutien, et donc la personne ben, travaillait tous les soirs jusqu'à 11h du soir pour mmh. essayer de se dépatouiller. Parce que c'était sa première année en mm. tant que chef d'établissement, donc adjointe,
mm.
et elle ne pouvait pas se retourner vers sa chef
et
pour
non.
avoir un soutien,
oui.
et c'était tout le temps des choses négatives. Et elle, de son côté, comme elle ne pouvait plus supporter ça, mm. elle a fait un signalement auprès d'un supérieur hiérarchique,
oui, oui.
Ce qui lui a valu bon, mais d'être déplacé d'établissement.
Voilà.
Alors que ses enfants étaient toujours dans cet établissement, et puis de subir des fois des petites pressions, quoi.
Mmh,
voilà. Ce qui est délicat aussi dans ces cas-là, c'est que bon, souvent les personnes veulent rester dans l'anonymat parce que justement il y a ces peurs de représailles-là.
Mmh.
Certains cas, les gens les ont portés auprès de Stop Discret, mmh. notamment celui de ce chef d'établissement, mais pour l'instant, l'anonymat n'est pas levé, mais mmh. elle compte lever l'anonymat justement mmh. parce que elle aimerait qu'à un moment donné sa situation soit reconnue, puisque mmh. ça l'a mise quand même, ça lui a imposé de devoir changer d'établissement, et ça a imposé au niveau de la famille certains désagréments aussi.
Quoi. Mmh. Alors, quelle pourrait être une issue, par exemple, en cas de problème, ça peut aller jusqu'à quelque chose de légal. Vous avez quelque chose pour accompagner du conseil ou au moins une redirection. Vers, parce que ça peut finir au tribunal administratif, ce genre de choses, j'imagine.
Alors, Helpen s'est rapproché justement d'avocats mmh. Pour mettre en place des choses et pour essayer, à un moment donné, sur certains cas, de pouvoir se porter partie civile mmh. auprès du tribunal.
Oui.
Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, et dans des cas effectivement précis, peut-être Helpen pourrait se porter partie civile mmh. à la place des personnes. À l'heure actuelle, Helpen va accompagner. Alors, Évidemment, j'aimerais préciser quand même quelque chose, c'est qu'il y a bon nombre de cas. Elpen est une association loi 1901, hein, dans laquelle on est tous bénévoles. Hein.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'il y a besoin, pour fonctionner, le nerf de la guerre, il y a quand même besoin d'argent. J'en profite pour dire quand même que tous les dons sont les bienvenus et que l'administration fiscale, elle, nous a reconnus d'intérêt général et auquel cas on peut bénéficier effectivement des 66% d'abattement lors de la déclaration des impôts. Pourquoi il y a besoin d'argent ? Parce que il y a besoin de faire des écrits, des photocopies, justement se rapprocher d'avocats, de louer des salles à un moment donné.
Oui.
Et voilà, après toutes les personnes étant du président à toutes les personnes comme moi bénévoles quoi. Et donc au fur et à mesure justement que l'association va se former, peut-être on verra apparaître de nouvelles fonctions. Et donc ceux qui sont accompagnés, on leur demande de prendre l'adhésion hein, qui est à hauteur de 30 euros par an et pour avoir accès justement à une partie d'outils et d'accompagnement plus approfondi quoi.
Oui, alors bon, vous avez été reconnu par l'État au niveau fiscal, mais alors voilà, une question qu'on peut se poser, c'est voilà comment l'administration elle vous voit comme une aide, un support, quelqu'un qui aide à régler les problèmes ou comme un adversaire, voilà. Hein, alors, c'est récent, votre existence est récente encore, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des retours, les gens ils y vont un peu à reculant, hiérarchie, vous dites oh ceux-là ils vont nous casser les pieds. Quel est votre sentiment?
Alors il y a pas de retour comme ça, comme qu'on pourrait leur casser les pieds. Il y a eu une demande justement, le président a fait une demande au nom de l'association Elpen pour être reçu par le ministère. À cette date, j'ai pas eu le président dernièrement au téléphone, mais enfin il n'y a pas eu d'entrevue prévue encore avec le ministère et pour voir justement comment Elpen pourrait amener cette pierre à l'édifice pour répondre à des problématiques comme ça.
Oui, parce que vous pourriez être vraiment un partenaire. Hein.
Tout à fait. L'idée c'est ça. Hein. Ben vraiment, Elpen, c'est pour être un partenaire et pour aider, hein, pour essayer. C'est pas pour être là pour montrer du doigt ou comme ça. Oui. C'est vraiment pour être un partenaire, pour aider et qu'on trouve tous ensemble une solution pour faire sortir par le haut.
Mais c'est vrai. Voilà, encore, j'ai déjà dit, mais j'insiste encore. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Les gens qui ne sont pas de la maison, comme on dit, vraiment la lourdeur de cette chose, hein, l'éducation nationale. Donc forcément, comme dans les organismes. On a besoin des globules blancs pour régler certains problèmes, etc. Je fais une petite analogie, mais voilà, vous pouvez être un de ces régulateurs qui va aider le système qui est tellement lourd à faire partie de régulation et d'un des aspects des problèmes que rencontre un organisme aussi lourd, en fait.
Oui, et puis d'amener aussi peut-être si les agents ont perdu confiance un peu à l'institution, d'amener un partenaire extérieur en se disant je vais pouvoir parler en toute liberté.
Surtout quand on voit vos statistiques.
Voilà, exactement. Et puis après, justement, peut-être à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, hein, même si pour l'instant le but d'Elpen n'est pas d'être justement un médiateur entre les personnes, mais peut-être de pouvoir apporter des solutions ou d'aider justement l'institution à un moment donné à pouvoir apporter une solution. Quoi.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que en s'adressant à vous directement et en faisant une sorte de manière un peu anonyme, on va éviter le retour de coups de bâton que voilà, vous avez quand même 85% des gens que ça s'est retourné contre eux.
Oui.
Donc, franchement.
Ouais, et puis, ça peut être important aussi pour les personnes de se dire je vais être écouté.
Voilà.
Parce que les personnes, quand elles viennent justement livrer leur histoire, les histoires sont dures. Enfin, il y a une souffrance.
Oui,
comme je disais tout à l'heure, il y en a des fois, ça peut durer 4 ans, 20 ans. Quand elles ont enfin quelqu'un en face au moins où elles peuvent déposer, on va dire, ces valises-là en se disant bon, je vais être écouté, mais entendu surtout. Et en leur apportant un minimum d'outils, mais au moins d'être entendu, de leur dire ok, on entend, et ce que vous vivez n'est pas normal.
Voilà. Bon, alors, j'allais dire, on retrouve, j'ai reçu tellement d'invités ici, que ce soit dans la santé, etc. Il y a toujours les parties, permanence, téléphonique ou en réel et tout. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que voilà, au moins, il y a le première étape, c'est on a un problème, on va être écouté. Voilà.
Exactement.
Ce qui n'est pas le sentiment qu'on a en général par l'administration. Voilà. Et voilà, effectivement, vous voulez être formé à la réception des témoignages des gens. Ben, dans l'administration, il n'y a pas grand monde qui doit l'être, en fait, hein, pour faire ça.
Oui, alors bon, il y a Stop Discret, donc j'espère que les gens justement ont reçu une formation, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est lourd de recevoir un témoignage comme ça. Oui. Et puis surtout, il faut être dans l'accueil, pas dans le jugement. C'est-à-dire pas justement dire aux personnes, comme je disais tout à l'heure, dans la minimisation des faits ou comme ça. Non, c'est écouter la personne.
Oui, oui.
Si elle le raconte, c'est qu'elle est dans la souffrance.
Oui,
donc il faut l'accueillir.
Et,
mais il ne faut pas que la personne qui est en face, justement, se laisse happer par cette, cette souffrance-là.
Oui. Alors, bon, rapidement, on va bientôt faire notre dernière pause, mais voilà, c'est vrai que je mettrai bien entendu le lien de votre site internet avec le podcast, et on peut y trouver une série de vidéos, une grande conférence qui a lieu en novembre. Alors, quand on voit les vidéos, on voit qu'on n'a pas... c'est une affaire sérieuse, vu la qualité et le nombre des intervenants. Hein, donc, vraiment, c'est chercheuse au CNRS, qui parle un peu de l'aspect... c'est la sociologie, tout ça, la psychologie, il y a plein de choses, hein. Et vous avez aussi donc un harcélomètre qui est un petit peu, ça peut être un guide un petit peu pour les gens qui se disent harcèlement ou pas harcèlement. Est-ce que je suis harceleur ? Parce qu'on peut aussi être harceleur sans trop s'en rendre compte, d'être dans la zone grise comme on dit.
Exactement.
Ça j'admets qu'on puisse y être sans forcément le savoir. C'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel pour savoir où on est et que les gens aussi puissent évaluer et dire ben oui, non, en fin de compte, c'est pas normal ce qui m'arrive en fait. Parce qu'on n'en est pas forcément conscient, le temps, l'usure, les usages.
Tout à fait. Alors, ce que j'ai fait, moi, dans mon établissement, je l'ai affiché pour que les gens puissent, effectivement, au moment donné, se dire d'aller regarder. Comme on retrouve maintenant le violentomètre, qu'on retrouve un petit peu dans de nombreuses institutions. Le harcélomètre peut permettre, des fois, de détecter peut-être une situation. Ça commence, par les situations simples. Il y a le niveau vert. Alors, de mémoire comme ça, je pourrais pas vous les dire, mais parce qu'il y a quand même, c'est quand même important comme information. Mais on le retrouve sur notre site et ça peut permettre effectivement, à un moment donné, de se dire tiens voyons, est-ce que moi je me sens mal à l'aise dans cette situation, est-ce que je ne subirai pas ça ou ça, et donc de se référer effectivement à ça quoi. Et surtout au-delà aussi de ça, de pas hésiter quoi à contacter l'association, même si on a un doute ou si on veut avoir une oreille attentive quoi.
Oui. On va faire notre dernière petite pause, on va écouter un petit peu de musique et on se retrouve pour la conclusion de cette émission, à tout de suite. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors on va parler un petit peu les parties qu'on réserve souvent à la fin de l'émission, c'est les projets et l'actualité. Alors l'actualité parce que donc, vous avez aussi des fois des interventions, vous recevez des gens, vous faites des conférences, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est prévu en ce bientôt?
Alors là, celle qui est passée, effectivement, il y avait cette grosse conférence qu'avait organisée Helpen sur Paris, avec des intervenants comme Marie Pézé. L'actualité, j'ai envie de dire, là, de Helpen, c'est de continuer à promouvoir justement l'association pour qu'elle se développe justement sur le territoire, essayer d'avoir éventuellement des antennes à plusieurs endroits. Et donc là, c'est vrai qu'on a un petit peu acté officiellement, on va dire, l'antenne du Sud avec les adhérents du Sud, avec une formation aussi des personnes pour pouvoir accueillir la parole, parce que pour l'instant nous on n'a pas été formés, mais donc être formés pour pouvoir effectivement accueillir les témoignages. Ensuite, comme je disais au début, c'est d'essayer de réussir à mettre en place par cette pétition là une enquête parlementaire pour pouvoir effectivement avoir des chiffres, on va dire, officiels. Et puis il y a toujours ce travail sur le formulaire pour recueillir les témoignages et pour pouvoir le peaufiner et avoir quelque chose de bien finalisé.
Oui. Et puis ça fait quelque chose à présenter à l'administration, de dire regardez, voyez, on a fait des statistiques, on a ça, effectivement, à quoi sert Helpen. Alors,
exactement.
Dans l'idéal, j'imagine aussi, vous aimeriez, c'est pérenniser un ou deux ou trois salariés, parce qu'une grande association, quand elle prend de l'ampleur, etc., les salariés, c'est important pour une association, c'est eux qui sont là H24 sur le terrain, qui font les actions à long terme, et c'est le complément salarié et bénévole qui fait un peu les rouages d'une association qui tourne.
Donc ça, bon, on en reparlera.
Là, c'est les sous.
Sous, et puis on en reparlera peut-être dans quelques temps, quoi, en fonction de comment se seront emparés aussi les gens et l'institution de la possibilité de travailler avec Helpen.
Ben oui, ce serait bien qu'ils soient reconnus et qu'en contrepartie, vous ayez peut-être des subventions qui vous permettraient, puisqu'ils vont bien finir finir par se rendre compte qu'il y a besoin d'un organisme tel que vous. Si eux ne sont pas capables de le faire, ils font faire par une association. C'est comme ça que ça marche souvent dans
tout
ce pays.
Tout à fait. Et puis après, ça peut être effectivement complémentaire, comme on disait tout à l'heure. Il y a Stop Discri, voilà, qui se met en place, mais peut-être que les gens, dans un premier temps, se sentiront plus à l'aise de se tourner vers un tiers hors institution pour pouvoir être entendu.
C'est naturel. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane, d'être venu nous parler de cette association, mais de tous ces problèmes qui sont un peu à bas bruit, un peu silencieux, un peu cachés, cachés sous le tapis. Vu de l'extérieur, on n'en a pas forcément conscience, mais voilà, il y a des gens qui souffrent. Voilà, ça, c'est indéniable.
Et surtout, mais ne pas hésiter, si les gens veulent me contacter, de vous appeler, et vous pourrez fournir mon numéro de téléphone et mon adresse mail, et on sera là pour les accueillir.
On mettra les infos adéquates avec le podcast pour que les gens puissent écouter et propager la bonne parole. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci beaucoup, Jean-Philippe, et à Souvenir FM.
Et bon courage.
Merci.
Au revoir.